Shalom à tous. Bezrat Hashem, refoua shlema shel Michel Cohen. Bezrat Hashem. Le cours aujourd'hui sera comme convenu, va traiter de la création de la nation d'Israël. Quelle est la raison de cette création? Pourquoi l'existence d'Israël dans le monde? On l'a fait, j'ai dit déjà. Et donc, Bezrat Hashem, j'ai écrit un texte qui va un petit peu résumer cette pensée, cette idée de la création du monde par rapport à ce peuple d'Israël. Il n'y a pas longtemps, nous avons commencé la lecture de la Torah, de Bereshit, et dès le début, nous voyons qu'il y a une forme sémantique, grammaticale, qui n'est pas dans le respect de la tradition du texte hébraïque. J'explique. Le mot Bereshit, qui se termine par la lettre Tav, introduit automatiquement un verbe à l'infinitif. C'est-à-dire qu'on aurait dû dire Bereshit Habria. C'est-à-dire au commencement de la création. On ne peut pas dire Bereshit Bara. Ça n'existe pas en hébreu. Ça veut dire qu'il y a ici une faute, mais en réalité ce n'est pas une faute, parce qu'en réalité le mot Bereshit ne vient pas introduire la notion de commencement seulement, mais parler de quelqu'un qui s'appelle Bereshit, et avec lequel Bereshit, c'est-à-dire Be'em Sa'ut Reshit, par le biais de ce degré qui s'appelle Reshit, Bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Et donc le ciel et la terre ont été créés. Et donc Rashi qui voit ce problème, immédiatement nous renvoie au Midrash, et il nous dit effectivement, au niveau grammatical ça ne marche pas, donc on est obligé de dire que le mot Reshit, c'est le nom de quelqu'un, d'une identité, d'une entité. Et il en trouve deux. La Torah, qui s'appelle Reshit, et Israël, qui s'appelle aussi Reshit. Israël s'appelle Reshit Tevuato, c'est-à-dire les prémices de la récolte divine, et la Torah qui s'appelle Reshit Chochma, le commencement de la sagesse ou la tête, car le mot Reshit introduit la notion de tête. Roche. Donc nous voici face à deux possibilités par lesquelles et pour lesquelles le monde fut créé. Car le mot B, la lettre B, Reshit B, veut dire pour, Bishvil, et peut dire aussi avec, par le moyen de, les deux sont vrais. Je retraduis donc le verset. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. C'est pour Israël et pour la Torah qui tous deux s'appellent Reshit, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Deuxième traduction, c'est par Israël et par la Torah qui s'appellent tous les deux Reshit, qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que dans l'une des traductions, Israël et la Torah sont un but, et dans l'autre traduction, c'est le moyen par lequel le monde fut créé. Comment est-ce qu'on peut être un but et un moyen? C'est bizarre. Mais tout simplement parce que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre le cheminement pour arriver, pour accéder à quelque chose, est la chose elle-même. Et donc chez lui, en réalité, Israël et la Torah se trouvent au premier degré de la pensée, une chose qui est très difficile pour nous les humains de comprendre, d'entendre, car il s'agit ici donc de valeurs impalpables. Qu'est-ce que c'est que la pensée de Dieu? Mais en tout état de cause, la pensée première du Créateur, en tout cas du Créateur, c'est-à-dire du côté infini qui crée, car il y a d'autres aspects. Dieu n'est pas seulement le Créateur du ciel et de la terre, ça c'est une partie de son travail. Et je vais vous donner un exemple, il a 24 heures, il a pris 5 minutes juste pour ce petit truc. Tout le reste, il a d'autres métiers. Vous comprenez, ce n'est pas que le Créateur. Son métier de Créateur, sa fonction créatrice n'est qu'un degré, très petit de son être infini. Donc ne pensez pas que quand vous avez dit le Créateur du monde, vous avez dit l'infini, pas du tout. C'est juste un petit coin. Notre création n'est pas l'essentiel de tout. Il y a encore d'autres choses. C'est vrai que pour nous, c'est le sens. Car nous y sommes. Je veux dire par là que, en tant que créateur, que Dieu créateur, il y a donc une pensée qui s'appelle Israël, et une pensée qui s'appelle Torah, qui tous deux, ces deux pensées-là, sont le moyen par lequel HaKadosh Baruch Hu a créé ce monde, et le but aussi ultime. C'est-à-dire que tant que Israël ne se dévoile pas dans le monde n'est pas terminé, parce que c'est le but. Et tant que la Torah n'est pas dévoilée dans ce monde, le monde n'est pas encore terminé, car c'est encore une fois le but. On peut dire donc que la création du monde continue, ne s'est pas arrêtée, tant que ces deux valeurs ne sont pas dévoilées dans ce monde. C'est clair ce que je suis en train de dire? Ok. Pardon? Ça c'est autre chose. Ce n'est pas le monde qui s'entretue, ce sont les hommes. Le monde ne s'entretue pas. Non. Dieu et les hommes, c'est pas la même chose. Sinon, je suis obligé de me prosterner devant vous. Donc, nous sommes des révélations de certains degrés d'infini qui nous traversent. Mais nous ne sommes pas Dieu. D'accord. Donc, il y a des guerres entre les hommes, c'est parce qu'ils n'ont pas compris comment faire véhiculer à travers leur être ces valeurs de l'infini. Et ça, c'est un apprentissage qui, normalement, devra durer maximum 6000 ans. Ok. On est en 5775. Oui. Ok. D'accord, vous avez raison. Alors d'abord en hébreu on ne sépare pas, même quand on veut dire Bereshit, je ne mets pas un B et à côté Reshit, c'est ensemble. D'accord? Alors on est obligé de lier le mot Reshit à la lettre B ou à la lettre Lamed. Ça c'est une des réponses. Deuxième, pourquoi il n'y a pas marqué les Reshit? Tout simplement pour introduire ces deux valeurs. Parce que si c'était les Reshit, ça aurait été qu'un but et non pas un moyen aussi. Alors que dans le mot Bereshit, il y a aussi un but et un moyen. Et c'est ce qu'on veut entendre. C'est ce qu'on veut nous laisser entendre. À partir de cette base que vous avez, j'espère, comprise, on va commencer le texte que j'ai écrit donc pour cela. Am Israël hu bria Elohim ha'omedet bemerkaz ha'chaim. Israël, en tant que peuple, est une création divine, supérieur, qui se trouve au centre de la vie. Ici, la vie, en tout cas le générateur de la vie, c'est l'infini béni soit-il. Je veux dire par là que la pensée essentielle ou la pensée centrale du Créateur, c'est Israël. Donc Israël, c'est le centre de sa pensée. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il avait une seule pensée en tête, tout le temps, qui est de l'ordre de l'infini, qui ne s'arrête jamais, c'est Israël. Donc tout ce que Israël voudra dire par la suite. C'est-à-dire la terre d'Israël, le peuple d'Israël, et la notion Israël d'une manière générale. Zoïd Moutraï, donc c'est une forme vivante, une forme de vie, ce fameux Israël, je ne parle pas des Juifs, attention, on n'y est pas encore. On est encore dans la pensée divine avant la création du monde, il n'y a pas de Juifs, ça n'existe pas encore. Il y a une pensée divine qui s'appelle Israël, cette pensée existe déjà. Et donc, Zoïd Moutraïm, c'est une forme de vie que le Créateur crée. Amin Sed Bemerkaz Yut Marchev et Aboré, qui se trouve donc au centre de sa pensée infinie. Odisne Briata Olam, bien avant la création du monde. Alors pour nous, c'est difficile à concevoir parce qu'on ne comprend pas ce que c'est avant la création du monde. Parce que pour nous, ça n'existe pas. Tout est lié au temps, alors que là-bas, c'est de l'ordre de l'infini, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais peu importe, pour nous, l'idée que le Créateur lui-même nous donne dans la Torah, lorsqu'il commence par le mot « Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz », c'est en réalité le monde de la création. Combien de lettres il y a dans ce verset ?« Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz » Sept mots. C'est-à-dire sept mots qui sont en réalité les sept degrés de la création. Alors qu'il y a trois autres degrés, n'oubliez pas, parce que l'entité est toujours de 10, qui sont de l'ordre du monde caché, qui n'est pas encore dévoilé. C'est comme moi, Yoel, j'ai trois degrés que vous ne connaissez pas. Ce que vous êtes en train de voir ou de recevoir de moi, ce sont que les sept degrés inférieurs que je veux bien vous donner. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, au moment où je vous parle, bien que je sois en train de vous dévoiler certains degrés de ma pensée, de mes trois premiers degrés, qui sont de l'ordre de mon cerveau, droit, gauche et central, ça passe par sept degrés inférieurs, c'est-à-dire j'habille ma pensée dans des mots. À partir du moment où je donne un vêtement à ma pensée, c'est déjà de l'ordre des sept degrés d'en bas. D'accord ? Donc c'est un côté, je vais dire, féminin, alors que ma pensée est masculine. L'expression de ma pensée est féminine. C'est pour ça que sous la choupa, la femme tourne autour de l'homme sept fois, d'après la Kabbalah. C'est elle qui en réalité dévoile ce qui se trouve dans ce degré caché qu'est l'homme. En donnant des bébés, qui était déjà chez lui, mais qui se dévoile à travers elle. Et d'une manière générale, c'est l'expression de son homme. Donc on appelle gouf. La femme est le corps de l'homme. Elle lui donne corps, elle l'habille. Ishok et goufo. Par le même parallèle, nous sommes le corps de l'infini, béni soit-il. Donc nous sommes les sept degrés qui dévoilent les trois degrés cachés dans le monde d'en bas. Israël. Nous, la nation d'Israël. D'accord ? Encore une fois, je ne parle pas des Juifs. Les Juifs vont apparaître un petit peu plus loin dans l'histoire. Ne vous inquiétez pas, on y arrivera. Pour l'instant, nous sommes en train de parler d'une âme. Imaginez-vous une pensée, un grand soleil, comme vous avez envie de l'imaginer. Mais tout est faux, en réalité, mais c'est une pensée énorme qui s'appelle
Israël, au niveau conceptuel. Il n'y a pas encore de réalisation réelle, de manifestation dans des hommes et des femmes en bas. Ça, ça viendra d'une manière friée, petit à petit, au fur et à mesure que l'histoire de l'humanité avancera. Et donc, cette pensée initiale va s'habiller, va commencer à s'habiller dans des êtres vivants. Réellement, d'une manière, en tout cas, ce que la Torah veut nous révéler d'une manière très forte, c'est chez Noach, puis de Noach, pas tout Noach, un de ses fils, Shem, pas Ham et Yafet. Et Shem, lui aussi, une partie. Et après une partie du fils, et pas tout le fils, jusqu'à Abraham. Et même Abraham, Abraham n'est pas un juif, Abraham n'est pas Israël. D'accord ? Abraham est un homme, qui appartient à l'humanité. Mais ce n'est pas encore un homme d'Israël, car pas tout Abraham va être choisi. Israël, lui aussi, qui est sorti de Abraham, eh bien, c'est pas tout Israël qui va être choisi, puisqu'il y a de Israël et Esav et Yaakov. Et donc, il va falloir attendre Yaakov pour réellement comprendre que cette première pensée dont on est en train de parler maintenant s'habille enfin dans un homme d'une manière complète, et encore lui aussi, dans son propre degré vivant, va devoir évoluer dans sa vie, parce qu'il va se transformer de Yaakov en Israël. Et finalement, la première pensée qui était à la base de la création va se retrouver finalement dans un homme, ici-bas, sur terre, qui va s'appeler Israël. Vous comprenez ? Donc, finalement, le Israël d'en haut va apparaître dans le Israël d'en bas. Mais ce n'est pas terminé, parce que ce Israël d'en bas va devoir prouver et dévoiler et jouer son rôle de révélateur de cette pensée divine première. Et donc, l'histoire continue jusqu'à aujourd'hui, et encore cet après-midi, ce sera valable. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore terminé notre rôle Israël. Kisarisaim Elohim ve'im Anashim. Israël, traduction, celui qui est capable de se confronter à des valeurs divines, aussi bien qu'à des valeurs humaines. Ça, c'est le secret de ce peuple d'Israël. Et donc, nous avons ici, je reviens à notre cours, quelle est la spécificité de cette âme, de ce degré supérieur? C'est que ce degré est fidèle aux valeurs du ciel. Sens de la troisième ligne. D'apporter, il est fidèle pour acheminer ces valeurs, donc de la pensée divine première, vers sa réalisation. Donc Dieu ne s'est pas trompé, il a choisi une nation dans son état premier, et quelle? Comment est-ce qu'il a pu la choisir s'il n'y avait rien d'autre? Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de choix. Non. Non. Quel est le choix donc? Le choix d'Israël par rapport aux nations, c'est un choix, comme si maintenant je marchais entre vous et je dis c'est un choix de lui, comme ça. Alors quel est le choix, je ne comprends pas. Il y a un choix. Non, vous n'avez pas encore touché le point. Le choix, c'est de créer cette entité avec les valeurs qui vont lui permettre de faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça le choix. C'est pas qu'il y avait en face de lui plein de possibilités, il s'est dit, tiens, laquelle je choisis? Non. Il a choisi de créer déjà avec les qualités requises qui vont permettre à cette création, qui s'appelle donc Israël, qui n'est pas encore les Juifs que nous sommes, les enfants d'Israël que nous sommes. Il a créé cette pensée, il a créé cette âme qui sera capable toujours, par sa nature, d'être imprégnée dans son être, il l'a créée de cette manière-là, pour qu'elle soit capable de révéler et d'être fidèle à son nom. Donc quand vous faites la bénédiction, Asher Bachar Banu Mikol Amin, est-ce que l'une d'entre vous peut me dire à quoi ça fait référence? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il nous a choisi? Non. Encore une fois, il a choisi de nous créer de cette manière-là. Parce que choisir, ça veut dire qu'il aurait pu choisir autre chose. C'est-à-dire une autre forme, une autre entité. C'est-à-dire que son choix, c'était pour une seule chose. Pour qu'on révèle son nom dans le monde. C'est ça son choix. Donc il nous a créé avec un choix parmi une infinité de possibilités. Il a choisi celle-ci. Une seule possibilité. Si on avait été créé tout seul, on n'aurait pas pu. Il nous a créé, c'est tout. Point. Parce que c'est ça la Bechira. Il a choisi de nous créer de cette manière. Voilà ce choix. Donc Israël est fidèle à Hachem par nature, que vous le vouliez ou pas. C'est tout, nous sommes fidèles à Dieu par nature. Alors, demandez-moi comment est-ce possible que des hommes individuels ou des femmes individuelles ne sont pas fidèles. Ils sont fidèles au niveau de leur neshama, mais ils ne sont pas fidèles au niveau de traduire cette neshama dans des actes. C'est tout. C'est-à-dire, si je prends n'importe quelle femme qui appartient à Israël, qui est née d'une maman juive, n'importe quel homme, n'importe quel bébé, il est déjà fidèle par sa nature. Est-ce qu'il dévoilera cette fidélité dans sa vie ou non? Ça, c'est son problème à lui. Mais lui, il est fidèle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le juger. Par rapport à quoi on juge l'homme ou la femme d'Israël? Par rapport à cette capacité qu'il avait au départ. Et on va lui dire, regarde, tu avais une capacité de dévoiler mon nom, combien tu as utilisé de cette capacité? Sinon, à quoi ça sert de juger? Il faut une valeur de base pour savoir par rapport à quoi je me base pour dire tu as été fidèle ou pas fidèle à ta propre nature qui est d'être fidèle. C'est simple ce que je suis en train de dire? Ok. Non, il n'y a pas marqué qu'il est mauvais depuis sa naissance, n'essayez pas de m'embrouiller. Il y a marqué qu'il est Yeter Adam Ramirurav. Il n'y a pas marqué Milezato. C'est-à-dire le Yeter de l'homme l'attire depuis sa jeunesse, depuis son jeune âge. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il est capable de façonner des choses. Comment on dit façonner? Litzor. D'accord? À l'infinitif. Litzor. Au verbe, ani, yotzer. Ou yotzer. Ça veut dire que le yotzer, c'est quoi? C'est mauvais ou c'est bon? Mais ça dépend ce que tu en fais. C'est une valeur absolue. Si tu l'amènes vers le mal, ça devient yotzer hara. Mais si tu l'amènes vers le bien, ça devient yotzer hatov. C'est pas un ange qui est à l'intérieur de nous et qui nous dit c'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est des bêtises, c'est pas du judaïsme. Tout est en moi, c'est à moi de choisir en réalité vers quoi j'apporte, j'amène, j'achemine les forces que j'ai reçues à l'intérieur de moi. D'accord? Il y a fait. C'est pour ça que la Teshuvah existe. Pourquoi? Parce que c'est notre nature. Elle est la base de notre vie. C'est-à-dire on est toujours au niveau intérieur, collé aux valeurs du divin. Donc nous sommes fidèles aux valeurs du divin. Donc, si je me suis éloigné, Chazvei Shalom, en tant qu'individu, j'ai une possibilité de revenir. Donc, Teshuvah veut dire retour. C'est-à-dire, je reviens à ma nature normale. C'est tout. Donc, faire Teshuvah, c'est pas prendre une nouvelle direction dans la vie. C'est des bêtises, ça. C'est tout simplement revenir à mon identité vraie, première, fidèle, telle que je suis créé, telle que j'ai été créé, avec mes capacités de base. Ça dépend. c'est aussi la femme qui l'a fait fauter.
C'est-à-dire, au départ, son côté féminin l'a fait descendre vers le bas. N'oubliez pas. Donc c'est à elle aussi de le faire revenir vers le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le thème de ce cours aujourd'hui. Les guérines, ce sont des âmes qui, à un moment donné, au lieu de s'habiller dans un enfant, dans un bébé qui est né d'une maman juive, eh bien, cette âme, le papa est allé se marier avec une femme qui n'était pas juive, donc l'aneshama va passer par ce papa dans une femme qui n'est pas juive, donc l'enfant qui va naître ne sera pas juif, mais son âme, elle est liée à Israël. Donc un jour, naturellement, elle va revenir à sa nature. Alors on va appeler ça une conversion. Mais en réalité, c'est un retour à sa source. La même chose. C'est une forme de teshuva. D'accord ? Donc la teshuva, c'est un retour dans tous les domaines. Quand vous avez décidé de revenir en Israël, vous avez fait une teshuva parce que vous vous rappeliez dans votre intériorité la plus profonde que le premier degré terrestre que votre âme a connu un jour, c'était cette terre. Seulement vous êtes né à Paris. Eh bien, on va réparer, il n'y a pas de problème. On va revenir parce que je ressens que cette terre, c'est mon endroit, c'est ma nature. Alors quelqu'un qui n'entend pas ça, qui n'a pas encore reçu le message, qui n'a pas entendu la paracha, qu'elle lève les bras. Il n'a pas entendu encore qu'elle d'aller vers lui, lève les bras, retourne vers toi, va vers toi, reviens à toi. Eh bien, ça lui prend un petit peu plus de temps que les autres. Alors, on va lui apporter différents instruments. Un coup c'est un chauffard, un coup c'est un rabbin, un coup c'est un chalia, un coup c'est un chiour, un coup c'est internet, peu importe, tout ça c'est des formes de chauffards qui vont le réveiller, réveiller sa conscience, ou par un rêve, ou par ce que vous voulez. Et le jour où il reviendra, il prendra conscience, eh bien il revient à sa propre nature. C'est tout, il revient à sa place. D'accord. Alors, est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train de dire? Ce sont des bases très importantes. Si vous n'avez pas ces bases-là, alors, vous ne comprenez pas, bon, nous, moi je suis né faisant partie de ce peuple d'Israël, mon voisin il est né, voyez, on se débrouille, je ne sais pas, il y a des guerres, il y a des machins. On ne comprend même pas ce qu'on fait. Pourquoi nous sommes là? Yesod ve'atid lehitlabel, donc ce fondement-là, cette nature, donc, que Dieu a créée, qu'il a choisi de créer, vous me suivez maintenant, chaque mot est important. Dans l'avenir, va s'habiller, atid leitlabesh bedmuyot shonot bemeshech ha'historia enoshit. Eh bien, ça va s'habiller dans des êtres vivants et différents dans l'histoire de l'évolution de l'histoire humaine. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Abraham et ainsi de suite. Achimasu agufim, jusqu'au moment où on va trouver des corps de chair et de sang, d'os, okay, comme nous le sommes, qui vont être capables, mais sous galine, les achim et aneshamot, ne n'existe pas, okay, jusqu'à ce qu'on trouve des corps qui soient capables de contenir cette qualité d'âme que Dieu a créée au départ. Il rentre pour que cette qualité s'habille dans des corps de chair et de sang. En chair et en os. D'accord ? On dit en hébreu, bassar vadam. On ne dit pas en chair et en os, on dit en chair et en sang. Peu importe. En français, c'est en chair et en os. Amishtal shelot moto gufelion, lui dit l'Israël. Et quelle est la capacité de ces corps-là ? Parce que maintenant même les corps vont être importants. Le corps que nous avons, parce que nous sommes nés d'une maman qui fait partie du peuple d'Israël, et bien notre corps, lui aussi, il a une différence. Et quelle est sa différence? Il peut contenir une partie de ce grand soleil qui a été la pensée divine depuis le début, sans se brûler. Mais malgré tout, vous comprenez que c'est une grande lumière. Donc le juif, par nature, il a toujours une tendance à se brûler. Vous comprenez pourquoi? Parce que son corps n'est pas capable de contenir tout le temps ce message énorme.
Alors que le goy, le non-juif, lui, il est au repos. On ne lui demande pas une grande fonction à remplir. Alors que nous, à l'intérieur de nous, ça nous...
Les psychologues le savent, ils reçoivent des gens toute la journée avec des difficultés.
Mais en réalité, nous sommes tous un petit peu fatigués de ce côté-là et on devrait tous aller chez des psychologues. Parce qu'en réalité, on a toujours tous des mal, des mots, M-A-U-X, de l'être.
Qu'est-ce? Ça veut dire que la difficulté existe. Et quelle est la source de cette difficulté? C'est que justement, quelque chose d'aussi énorme, qui est la pensée divine, avec de telles demandes qui sont fixées à l'intérieur de cette âme, eh bien imaginez-vous que ça descend dans un petit corps, de rien du tout. Et ce corps-là doit vivre associé avec cette Neshama et toutes ses valeurs pendant 80, 90 ans, 120 ans. C'est évident de rester marié. Il y a tout le temps en train de se dire à la Neshama, je vous pousse le cri qu'en réalité chacun de nous pousse à l'intérieur.
J'en ai marre, c'est ici, je suis tranquille. J'ai envie de me reposer, je ne peux plus sans arrêt, tu me demandes tout le temps, améliore-toi, sois mieux, sois meilleur, sois fini, va de l'avant, avance. C'est fatigant.
On n'a pas de repos. Sadikim, elle-même menoucha.
Et plus tu es sadique, plus tu prends conscience de cette valeur que tu dois accomplir dans ce petit corps de rien du tout, plus tu souffres. Donc moins tu as du repos.
D'ailleurs, ça ne se termine pas à la mort. Parce que les gens pensent que, bon, alors on en finit, et c'est fini.
Non, ça te poursuit. Ça dit qu'il m'a l'aimé, l'ova olamazé, l'ova olamazé. C'est-à-dire que la Neshama, même après qu'on soit mort, elle continue à nous dire, avance.
Mais où je vais? Mais là-bas, il y a encore où aller, ne vous croyez pas que c'est fini.
On passe d'un degré à un degré supérieur, à un degré supérieur à un autre degré supérieur. Imaginez-vous que nous sommes toujours dans un vent, et qu'on est accroché à ce vent, on vit 120 ans, et quand on meurt, on se dit, on ne meurt pas, on reste dans un autre vent. Puis on est réaccroché dans un autre domaine. Et on va vivre encore, on se dit, les 120 ans dans l'autre vie, et on va remonter et re-rentrer dans un vent qui est réaccroché encore.
Il y a une joie, la joie, c'est de savoir que nous sommes dans ce processus et de profiter de chaque pas. Mais je vous dis la source pourquoi nous souffrons. Mais en réalité, il s'agit bien entendu de comprendre et d'étudier comment voir ce cheminement d'une manière heureuse. D'accord? Tout simplement de changer un petit peu le switch en disant, c'est sûr que c'est quelque chose de très grand que je dois faire, mais si Akadosh Baruch Hu m'a créé et m'a permis de faire cela, c'est que je suis capable. Il faut juste que je le prenne cool. C'est-à-dire, premier danger chez le juif, c'est de croire qu'il est un petit Dieu.
Et qu'il est omniprésent, omnipotent, non. Si Yoel ne peut pas venir donner un coup, il y a qui peut le remplacer.
D'accord? Ça veut dire que je ne peux pas me dire maintenant je suis le Mashiach du monde. Attention! Ça c'est le danger de l'ego d'Israël. Donc moralité d'un côté c'est un danger, d'un autre côté ça le pousse à être toujours au premier niveau, n'importe où.
C'est-à-dire que si je le mets dans une boîte où je ne connais rien,
au bout de 3 ans, ça devient le responsable de lui.
Pourquoi?
Parce qu'il a ce feu intérieur qui dit « tu es responsable, donc tu dois donner l'exemple, tu dois être la lumière de... » C'est pas qu'il entend ce méchant, il a été un coup.
Non, c'est imprégné dans sa carte génétique. Tu es la lumière des nations, peu importe dans quel domaine, peu importe dans quel sujet.
Hanegama bebriat haneshama. Nous sommes dans la deuxième partie. Donc, quel est le but bebriat haneshama hameyuchet et hazot? Pourquoi Dieu a créé une âme spéciale telle que la nôtre? Avant même qu'il y ait des corps, n'oubliez pas. Amesugelet leolich et taora en sof baolam, qui est capable, elle, d'acheminer, de conduire, d'être le conducteur, la conductrice, okay, de cette valeur divine dans ce monde. Pourquoi? Aïssa Genota, elle a toujours été cette raison, et elle le reste encore. Ligol et taolam minesilato. C'est de sauver le monde de sa chute. C'est-à-dire que Dieu savait que le monde allait chuter, okay, par la faute du premier homme. Le premier homme était juif ou pas? Non! Non, le premier homme n'est pas un juif, ça n'existe pas encore, ni Israël, ni rien du tout, c'est l'humanité. Donc, une fois que l'humanité est tombée, Dieu avait créé déjà avant la solution à cette chute, en créant cette Neshama Israël, qui va refaire monter l'humanité de toutes ses chutes. En d'autres termes, le monde va être dans un désespoir qu'Israël va pouvoir guérir. D'accord? Ve'abiru, deprinat agufim, hanosim et aneshama hagedola hazot. Et donc il va falloir aussi un prix. C'est-à-dire que Dieu non seulement a choisi déjà de créer cette fameuse âme, mais après il va falloir créer des corps, des petits bébés qui naissent, qui vont être les porteurs de ce message de cette âme-là. À qui de l'offrir avec Kolos Matod et Fiat Mitzrayim? Mais quand est-ce que ça va se révéler réellement? À la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que donc la sortie d'Égypte? C'est un tri de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y avait un saut inconnu de personnes là-bas en Égypte, et à Kadosh Baruch Hu choisit certains corps plutôt que d'autres, qui vont être les porteurs, eux, de ce message qui a précédé bien avant. Peu importe. C'est-à-dire que même dans ce groupe d'hommes, pas tout le monde est capable de vivre ce degré-là. Donc on va prendre seulement la quintessence, l'essence de ceux qui peuvent sortir. C'est-à-dire, qui est sorti d'Égypte? L'essence même des corps capables de contenir cette âme et de vouloir jouer ce rôle. Et même pendant le désert, il va y avoir encore un tri. Vous comprenez que le tri continue sans arrêt. Okay. Moralité, pourquoi nous sommes sortis d'Égypte alors que l'Égypte aussi devait sortir? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Égypte devait sortir? Qui devait sortir en Géoula, en Égypte? L'Égypte, pas les Israël. Comment ça s'appelle? Yéhiyah, Mitzrayim, traduction, c'est la sortie de l'Égypte elle-même, de sa galoute, pas d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il y a d'Israël? Ça sous-entend que qui doit être libéré? Mitzrayim, l'Égypte. Alors comment se fait-il que seulement un groupe d'hommes qui s'appelle Israël sont sortis de l'Égypte? Et même pas tous. Et bien tout simplement parce qu'il y a une prise de conscience et Dieu s'habille dans un certain groupe d'hommes qui vont être en réalité la dougmite, je ne sais pas comment dire en français. Comme un étalon, un modèle de base, et un échantillon qui va en réalité donner, merci, à l'humanité tout entière, l'espoir qu'on peut sortir. Donc, représenter la sortie d'Égypte comme une sortie d'enfant d'Israël d'un endroit, c'est pas aussi simple que ça. C'est tout simplement dire à l'humanité, l'humanité tout entière va être sauvée. Mais pour l'instant, il n'y a que les porteurs du message qui ont pu être sauvés, parce qu'ils sont le porteur de ce grand message, et un jour, ils le véhiculeront aussi
aux autres objets qu'on appelle entre guillemets Égypte. Qui sont aujourd'hui les nations du monde. L'Égypte, c'est pas seulement un pays, c'est pas un pays arabe à côté. L'Égypte, d'une manière générale, c'est tout le monde qui est dans l'exploitation. Messarim veut dire suivant. C'est-à-dire que le monde est emprisonné, le monde est dans une dépression, Israël va sortir, va libérer de cette dépression. Et donc, si le parent court après les enfants d'Israël, c'est pas pour leur dire revenez, j'ai les mêmes à la maison. C'est pour leur dire pourquoi vous êtes sauvés, pas moi. Il pleure le pharaon. Il a compris le message. Seigneur, il voulait lui être le porteur du message. Puisqu'il dit que c'est lui le premier-né. D'accord ? Et que Dieu est obligé de faire ainsi, de dire non, ni Bechorim Israël, il n'y a que ceux qui sont capables de porter cet échamin que j'avais déjà prévu, qui vont être Israël. Donc comme tu dis que c'est toi le premier-né, tu es obligé de faire un test. Il n'y a que le premier-né qui peut supporter cette âme. Lorsque tu passes, tu dois le dire. Ça s'appelle la plaie des premiers-nés. Ceux qui ont soi-disant voulu être les premiers-nés, on leur dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais introduire en toi cette grande méchama. On va voir si je suis porté une seconde. On ne peut pas jouer un jeu que nous ne sommes pas. Donc les Égyptiens se sont en réalité déguisés en Israël. Et Dieu tout de suite a remis les pendules à l'heure en tuant les premiers-nés. Ce n'est pas une punition. C'est tout simplement, ils sont morts pourquoi ? Parce qu'ils ont vu la lumière d'Israël les pénétrer. Et comme leur corps ne supportait pas cette lumière, bien sûr. Donc tu ne peux pas jouer à un but si tu n'en es pas un. Et même quand tu te convertis, tu es en voie de conversion, même quand tu fais Shabbat, tu te dis attention, ne fais pas Shabbat complètement parce que sinon tu risques de mourir. Parce que la lumière est trop forte. Tant que tu n'es pas passé au musée, tu as fait la régina ou pour une femme autre chose. Hein. Tu ne peux pas. Attention, c'est un danger. La Torah, c'est un danger. Qui brûle. Il y a des gens qui peuvent devenir complètement tarés par la Torah, par le Shalom. Qui n'a pas les ustensiles et la manière de vivre. Contient cette lumière qui est énorme. Donc, Zahar, il s'est purifié, n'a fait pour Sam Khaïm. Pour lui, c'est un élixir de vie. Mais le texte continue. L'homme Zahar, qui fasse que l'homme est un homme qui vit la Torah, qui est dans la Torah, mais qui n'a pas le pays, qui n'arrive pas à développer, ça n'a fait pour Sam Khaïm, c'est pour lui un poison. Parce que la Torah peut devenir un poison des rabbins. Pour quelqu'un qui n'a pas les mesures adéquates pour la recevoir et la véhiculer dans sa vie. Quel? On a un mérite juste de dévoiler ou d'étouffer. C'est tout. Tu as raison. Tout ça c'est vrai. C'est-à-dire, le mérite n'est pas d'être Jésus. C'est sûr que c'est un mérite. Mais maintenant, mon véritable travail, ça c'est gratuit, ça. Mon véritable travail, c'est de réaliser ce potentiel ou bien de l'étouffer. C'est tout ce que je peux faire. D'ailleurs, j'ai aucun autre choix. On n'a pas de choix dans notre vie. Ou on étouffe ce potentiel, ou on le dévoile. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Tu vas? Oui. Okay. Alors, le Hérébra avait conscience qu'il y a donc un porteur du message, donc le peuple seul, et il se dit, parce qu'il reconnaît que le lien passe par Israël, et il accepte en réalité